Affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Chaque matin, Paul Valéry avait rendez-vous avec lui-même au réveil. Il guettait dans son esprit l'éclosion d'une idée, il traquait les développements de sa pensée, suivait les méandres de sa conscience. Ce rituel d'introspection s'est accompli jusqu'à sa mort. Il se trouve consigné dans les cahiers, mais se rencontre aussi dans sa poésie, où on y retrouve quelques échos. Tant l'écrivain n'a jamais cessé d'explorer son esprit. Le psychologue Olivier Houdet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, puise dans cette œuvre des pépites cognitives qu'il nous partage dans un livre qui vient de sortir, Paul Valéry, amoureux de son cerveau, curieux de tout, mais d'abord de lui-même. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Alors, Paul Valéry était un poète qui s'intéressait aux sciences et vous êtes un scientifique qui s'intéresse aux poètes ?
C'est tout à fait ça. Je pense que la convergence, le croisement, le carrefour, c'est le cerveau humain.
Ce cerveau qui a passionné Paul Valéry, vous avez trouvé la trace de cette proximité par quel biais ? Je crois que c'est dans un livre.
Oui, absolument. Dans un livre chez le même éditeur, chez Odile Jacob, qui était un débat, on peut dire, épistémologique, scientifique, entre un grand mathématicien, confrère de l'Académie des sciences, Médaille Fields, Alain Cohn et autre académicien des sciences, Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, qui, au milieu des années 90, ont publié un livre qui s'appelle « Matière à penser » et qui opposait, qui confrontait la vision réaliste des mathématiques, des objets logico-mathématiques, qui est souvent celle des mathématiciens, encore par exemple aujourd'hui celle de Cédric Villani, c'est-à-dire que les mathématiciens pensent qu'ils perçoivent, ils découvrent dans l'univers, dans le monde, des réalités, des objets logico-mathématiques, mais ils croient vraiment qu'ils les découvrent, alors que le spécialiste du cerveau, comme Jean-Pierre Changeux, et comme je le suis, je le fus toute ma carrière, pense au contraire que tout est construit ou reconstruit par le cerveau humain, et que les nombres, les lois logiques, c'est le cerveau humain, grâce à ses réseaux de neurones, qui les élabore et qui les construit. Et au cœur et au cours de ce débat, Alain Cohn, sans doute acculé par la salve d'arguments du très solide neurobiologiste Changeux, trouve la solution d'évoquer Valéry pour réintroduire le rôle du cerveau en disant sauf à considérer que c'est grâce à un mélange rare de concentration et de désir que le cerveau du mathématicien découvre les lois logico-mathématiques. J'ai été subjugué par cette astuce de Cohn pour réintroduire le cerveau dans son débat. Et c'est seule cette référence de Valéry qui lui a permis cela. Donc j'ai entrevu, j'avais 30 ans à peu près, l'ampleur de la préscience épistémologique de Valéry, connue comme poète. Et ce n'était pas directement mon métier, je ne suis pas littéraire, j'étais neuroscientifique et j'avais beaucoup à faire à étudier par l'imagerie cérébrale le cerveau de l'enfant. Mais je m'étais dit un jour, je reviendrai à Valéry. Et voilà qu'on est une trentaine d'années plus tard et j'ai pris le temps de revenir à Valéry par cet ouvrage Paul Valéry, amoureux de son cerveau. Donc il y a de l'affectif et du cognitif, curieux de tout, mais d'abord de lui-même. Et c'est ce retour à Valéry qui est finalement l'origine de ce livre.
Alors, vous suivez le fil de la biographie de Paul Valéry dans une partie de cet ouvrage, tout du moins. Et il y a un épisode majeur, celui que vous appelez la nuit de Gênes, une nuit d'orage, un épisode fondateur pour Paul Valéry. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ?
Le tout jeune Valéry, qui avait à peine une vingtaine d'années, venait de connaître un épisode affectif qui avait totalement ébranlé son esprit et son cerveau. Il écrit à l'un de ses amis littéraires que son grand roi des idées, de la cognition, s'est effondré. Et cet épisode affectif était qu'il avait vu à Montpellier une dame qui lui semblait très élégante, qu'on appelle Madame de R, de Rovira, et qu'il avait appelée la comtesse, je crois la petite comtesse. C'était en fait une baronne. Et la cristallisation s'est opérée, comme on dit, en relation amoureuse. Il est tombé fou amoureux, c'était son premier amour, de cette Madame de R qu'il voyait, qu'il croisait par hasard dans les rues de Montpellier ou à Palavas-les-Flots, qui était la station balnéaire près de Montpellier où il allait. Et il raconte voir passer un Amazon sur un cheval avec des belles robes au vent, cette dame, mais qui était plus âgée que lui, mais qui ne manifestait aucune réciprocité, qui ne le voyait pas, qui finit par observer ses intrigues. Et comme il ne retrouvait pas cette réciprocité dans son premier grand amour, le château valérien, en quelque sorte, parce qu'il était déjà très... Il avait écrit ses poèmes de jeunesse, il avait déjà une pensée, c'était déjà un jeune poète-penseur, tout cela s'est effondré. Et lors d'une nuit, en effet, à Gênes, qui était la ville natale de sa mère, dans un cloître, sur une hauteur face à la mer, il était dans une toute petite cellule avec une fenêtre donnant sur le ciel, et il y a une nuit d'orage. Il y a encore des traces, paraît-il, dans les archives météorologiques incroyables, qui fait que Valéry restait assis sur son lit et chaque éclair qui passait et qui se reflétait sur le blanc de la pièce en chaud avait l'effet d'un choc neuroélectrique sur son cerveau. Cela était terrifiant et en même temps, par la force de ça montre son génie, par la force de cet éclair, il s'est dit « je vais retourner cela vers... » l'image mentale que j'ai de Madame de R, de cet amour non réciproque, pour l'annihiler. Il utilise plein de termes qui, pour moi, neuroscientifiques, ont immédiatement signifié l'inhibition. Il voulait l'inhiber dans la force utile du mécanisme d'inhibition et ce que j'appelle dans le livre le grand capitaine inhibition que Valéry a pour la première fois mis en place dans son cerveau et ne le savait pas, mais on le sait aujourd'hui. Ce phénomène de contrôle inhibiteur de soi, de son intelligence, de ses affects, se situe dans un lieu très précis qu'on a découvert avec mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, une région, un épicentre dans le cortex préfrontal.
Alors cette inhibition concerne ses passions amoureuses, mais elle concerne aussi son œuvre poétique et c'est peut-être plus étonnant. Il décide à ce moment-là de ne plus écrire en vers.
Tout à fait exact. Hein. Ce fut une prise de conscience, donc dans cette terrible nuit d'orage et une inhibition qui était... Valéry était un homme, en dépit de ses échecs amoureux, de sa fragilité, un homme d'une grande puissance intellectuelle. Et il a ressenti ce mécanisme inhibiteur, que je considère aujourd'hui préfrontal, et il l'a décidé, et c'est vrai que là, ça ne concernait pas directement la relation amoureuse, que cela valait aussi pour l'idolâtrie littéraire, et il a perçu à ce moment-là sa poésie comme reposant sur quelque chose de superficiel qui était le désir de plaire. Alors là, par le désir de plaire, on voit le lien avec son épisode amoureux. Et tout mon livre consiste à montrer qu'on a souvent opposé un Valéry affectif et un Valéry très cérébral, rationnel. C'est exactement le même Valéry, ce que j'essaye de démontrer. Et là, vous voyez, par cette solution d'annihiler le désir de plaire, eh bien, elle a considéré que ça s'appliquait tant à l'amour dévorant qu'à la poésie et toute création littéraire qui était quand même pour lui, puisqu'il l'envoyait à ses proches amis, liée au désir de plaire et à cette nécessité de reconnaissance et d'affectivité. Mais pour le coup, vous avez raison, il a tout inhibé et pendant une très longue période de quasiment 20 ans.
Et pourtant, il s'agit aussi d'une inhibition, vous le dites, créatrice.
Absolument créatrice, parce que c'est à ce moment-là quand même qu'il a écrit Monsieur Test, ce petit roman, le seul roman de Valéry, parce que Valéry n'affectionnait pas le roman. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas du tout reconnu l'œuvre et le génie de Proust, qui était son exact contemporain. Le bébé Marcel, comme je dis dans le livre, est né la même année que le bébé Paul, en 1871. Proust envoyait rue de Villejuste, dans le 16e arrondissement, près de l'Étoile, envoyait les exemplaires de La Recherche, mais Valéry ne les a sans doute pas lus. En fait, il ne s'intéressait pas à ses contemporains, sauf quelques scientifiques, il ne s'intéressait qu'à lui-même, et Valéry n'aimait pas le roman. Il disait à quoi sert-il d'écrire que la marquise est sortie à telle heure, etc. Le seul roman, le seul livre qu'il a concédé au genre du roman est Monsieur Test, ce que l'on peut appeler Monsieur Test Valéry, qui est cette histoire d'un homme ordinaire, mais qui est un homme ordinaire, extraordinaire, qui vit dans un petit garni assez médiocre, qui est employé à la bourse, mais qui fait des calculs mentaux prodigieux, qui ne cesse de s'observer, d'observer son cerveau, les processus de sa pensée, les algorithmes, et évidemment, teste, c'était Valérie. Et cette œuvre, qui le fit déjà connaître et qui est toujours très connue, était liée à cette inhibition créatrice qui l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle le cloître de l'intellect, c'est-à-dire c'était un monsieur Tess qui contrôlait parfaitement ses passions, ses idées. Et aussi, à cette même époque, un autre chef-d'œuvre de Valérie fut la méthode, l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Et là, c'était, je dirais, le miroir de Test, mais dans un vrai génie créatif qui était celui de Vinci. Mais ce n'était pas les œuvres de Vinci qui intéressaient Valérie, c'était son cerveau.
Paul Valéry a parlé de la figure de Narcisse, celui qui regarde son double, de Monsieur Test, qui est un peu son deuxième moi. Est-ce qu'il y a cette tentation du dédoublement chez Paul Valéry?
Oui, il est permanent et vous avez tout à fait raison. Il y a eu plein de poésie autour de Narcisse. Et il était, comme d'autres l'ont été, mais lui, très fortement fasciné par la mythologie de Narcisse. C'est la meilleure preuve que l'on puisse donner de ce dédoublement narcissique, valérien, qui intervient dans beaucoup de ses œuvres, dont Monsieur Test, dont Les Cahiers, et également dans ses relations amoureuses, on l'a évoqué, ce qui aussi les rendait terriblement égotistes.
À vous écouter, nous comprenons que Monsieur Test, c'est aussi Valéry, et lui-même pratique ses exercices d'introspection. C'est de façon expérimentale. Comment procède-t-il? Quelle est sa méthodologie?
Comme vous l'avez très bien dit, par ses cahiers qui ont aussi commencé à la même époque, jusqu'à sa mort en 1945, tous les matins, à l'aube, en sortant des brumes du sommeil et des rêves, disait-il, il était le siège d'une extra-lucidité. Il observait ses pensées, il essayait de les ralentir, de les capturer, ce que j'appelle les algorithmes de son cerveau. Et ces très riches cahiers, qui font des milliers, je crois, des dizaines de milliers de pages, son rêve était d'en faire la synthèse, parce que Valéry était un psychologue. C'était donc de l'introspection. Peut-être, ça ne sera jamais mesuré, cela fut-il la plus grande introspection jamais exercée chez l'être humain, et en tout cas traduite en littérature. Chez Descartes, peut-être, et c'est pourquoi le seul philosophe que Valéry avait décrit, c'était la biographie de Descartes, parce qu'évidemment, comme Descartes, Valéry, rue de Villejuste, chaque petit matin, observait le cogito par sa méthode, par le doute. Et vous savez que Descartes lui-même raconte dans certains de ses livres qu'il s'est appliqué à lui-même sa propre méthode durant des années et que c'était très difficile. Eh bien, Valéry, si vous voulez, avait de façon non scientifique, mais avec un esprit scientifique, auto-exercé cette méthode d'introspection et, je dirais, de capture de sa propre attention de façon tout à fait phénoménale. Et les traces qu'on a de ça sont ces cahiers, dont, je le disais, il était plutôt anti-philosophe, mais très psychologue. Il a fréquenté d'ailleurs de grands psychologues contemporains, dont Henri Pierron, qui dirigeait le laboratoire de psychologie expérimentale de la Sorbonne, dont j'ai hérité ensuite à la fin dans les années 90, et dirigé pendant 20 ans. Mais Valéry les fréquentait, mais lui, sa méthode, elle était personnelle. Il était sans doute un peu vaniteux, c'est-à-dire qu'il ressentait un cerveau tellement extraordinaire qu'il ne s'intéressait pas trop à l'approche scientifique du cerveau, ou en tout cas de l'esprit ou des comportements par les psychologues scientifiques contemporains, mais à son cerveau tout proche derrière son crâne. Et c'est pourquoi je mets en fiction l'idée que Valéry aurait été absolument admiratif, je crois, je l'espère, des technologies d'imagerie cérébrale, dont l'IRM qu'on utilise aujourd'hui dans nos laboratoires de neurosciences, pour observer le cerveau humain in vivo chez l'adulte lors d'une pensée ou au cours de l'émergence de l'intelligence chez l'enfant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans mon laboratoire de la Sorbonne. Et on y reviendra peut-être dans vos questions. J'ai imaginé, c'est l'aspect aussi fiction de mon essai, une visite de Valéry au laboratoire avec un échange que j'ai pris vraiment beaucoup de bonheur à écrire.
Ben vous pouvez peut-être nous en lire quelques lignes de cet échange.
J'ai imaginé un extrait de fiction dans ce livre, Valéry au laboratoire, mais au laboratoire d'aujourd'hui, à la Sorbonne.
Chez vous.
Voilà, chez moi. Observer un cerveau humain in vivo, et cela lors d'une pensée, ai-je bien compris, cher professeur? Oui, monsieur Valéry, c'est cela exactement. l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire quand le cerveau fonctionne quand on pense. Dommage que ce soit chaque seconde et pas chaque milliseconde. En effet, mais pourquoi, monsieur ? Car je suis rapide ou rien, c'est une expression exacte de Valéry. Le poète penseur de la Troisième République ajouta « Si vous le permettez, monsieur le professeur, je reviendrai pour une IRM avec monsieur Test, spécialiste de la gymnastique intellectuelle, grand spécialiste. Vous pourriez éventuellement comparer nos deux IRM. » Très bien, pourquoi pas, ce serait un plaisir de vous accueillir avec monsieur Test. À bientôt, monsieur Valéry. Et juste avant de partir, il se retourne et ajoute encore « Vous lirez tout à la fin de mon très modeste bilan de l'intelligence, j'écris, je suggère, le sport intellectuel consiste dans le développement et le contrôle de nos actions intérieures, etc. etc. » Et en parlant de ce sport intellectuel, il ajoute, et ainsi se termine ce texte, « C'est la grâce que je vous souhaite et de poursuivre, intarissable. Je crois aussi une éducation réfléchie des réflexes. Peut-être tout cela a-t-il un rapport avec l'inhibition dont vous parlez tant dans vos livres. On en reparle, dit Valéry. On en reparle, dit-il encore en souriant et en s'éloignant. Nous avions hâte de revoir le poète penseur et son ami Monsieur Test, de retrouver son regard bleu, toute intelligence et bonté, ses paroles pressées, ses gestes vifs et cette affectueuse courtoisie qui mettait si vite à l'aise.
Eh bien, nous entendons Paul Valéry parler d'un sport intellectuel. De quoi s'agit-il ? On pourrait entraîner son cerveau, et ça rejoint sans doute vos travaux, comme son corps finalement.
Alors, ce qu'il avait merveilleusement...
C'est son corps d'ailleurs.
Oui, c'est son corps et c'est le cerveau dans le corps. Il n'y a pas d'opposition. Il l'avait découvert par sa prescience et sa poésie, dont on reparlera, et ça correspond, et c'est ce que je mets en lumière dans ce livre, et qui fait que ce n'est pas seulement un livre de littérature, mais aussi de neurosciences contemporaines. Au laboratoire, nous avons, début des années 2000, essayé d'entraîner ce sport intellectuel, ce que j'ai appelé l'entraînement de l'inhibition, essayer d'inhiber ces automatismes trop rapides, ce qu'on appelle ces heuristiques, qui peuvent être cognitives, qui induisent à se tromper, ou affectives. Et il y a eu un prix Nobel, Daniel Kahneman, seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel d'économie, a reçu son prix Nobel au début des années 2000 pour avoir montré la force de ces heuristiques trompeuses encore dans le cerveau adulte et pas seulement chez l'enfant. Il a ainsi mis en cause le postulat rationnel des agents économiques, ce qui était évidemment une bombe dans l'image trop idyllique que l'on se faisait de la logique adulte et humaine. J'ai toujours été aussi convaincu de ça, mais je suis beaucoup plus optimiste que Kahneman pour avoir étudié l'enfant. Et je me suis dit, si on entraînait les élèves, ou même les adultes qui se trompent dans un problème de logique, à inhiber ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs, donc ces heuristiques trompeuses, que va-t-il se passer dans leur cerveau ? Et de façon là très scientifique et expérimentale, on a fait un groupe de sujets entraînés au sport intellectuel que j'appelle l'inhibition, le contrôle inhibiteur, qui va donc exercer le cortex préfrontal, juste derrière votre front, à l'avant du cerveau, et un autre groupe contrôle, qui fera un autre entraînement, mais pas à ce processus de contrôle inhibiteur. Cela avant l'apprentissage, avant l'entraînement, et après, ce qu'on appelle un pré-test et un post-test, sans jeu de mots, mais ça pourrait en être un. Et en faisant, par des technologies aujourd'hui vraiment informatisées, une comparaison, une soustraction entre les activations du cerveau après et avant l'apprentissage, et en comparant cela entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Et on a ainsi découvert ce que j'ai mis en image vers la fin du livre, très exactement à la page 113, un résultat spectaculaire, sans doute le plus beau de ma vie, à savoir qu'avant l'apprentissage, avant ce sport intellectuel d'exercice au contrôle inhibiteur, c'est l'arrière du cerveau qui est activé quand on se trompe, quand notre cerveau est heuristique, dirait Kahneman, et le cortex préfrontal, ce fameux cortex de la logique pure, des mathématiques, de l'intelligence humaine, de notre rationalité, n'est pas activé. Et on est là dans des cerveaux de grands adolescents et même d'adultes. Alors qu'après le sport intellectuel, s'opère une plasticité cérébrale de l'arrière vers l'avant du cerveau, telle que alors le cortex préfrontal est bien en ordre de marche et inhibe les heuristiques, les biais trompeurs pour arriver à ce que Valéry a toujours cherché, soit par son intelligence étincelante, soit par sa poésie pure, ce que l'humain, par son cerveau, pouvait en quelque sorte faire de meilleur. Donc, voyez, je vais vous faire une confidence. J'ai beaucoup écrit sur Piaget, sur les neurosciences actuelles. Et lorsque j'ai dit à l'une de mes meilleures amies que j'écrivais sur Valérie, elle m'a dit « Mais enfin, Olivier, pourquoi ?» J'ai dit « Vous verrez, vous serez la première lectrice de ce livre, ce qui fut le cas. » Et lorsqu'elle l'a lu, elle se reconnaîtra. Et elle m'a dit « Mais vous étiez obligée d'écrire ce livre. » Et en effet, on a réalisé de façon expérimentale et neuroscientifique l'observation, le test de ce que Valérie appelait ce sport intellectuel, en focalisant vraiment sur ce mécanisme très précis de contrôle inhibiteur. C'est pourquoi je m'amuse beaucoup dans ce livre à dire qu'en cette nuit de gêne que l'on a évoquée tout à l'heure, c'est le capitaine inhibition qu'on explique d'ailleurs aux enfants aujourd'hui dans les écoles, parce qu'il faut éduquer cela très tôt, que Valérie avait mis en marche. Mais je dis aussi jusqu'à la fin qu'il ne l'a pas trop bien maîtrisé, son
Mais justement, parce que nous avons l'impression que Paul Valéry a choisi son cortex préfrontal, l'a cultivé, l'a entraîné pendant même des décennies, mais que son cerveau arrière n'a pas disparu et puis peut-être a repris le devant de la scène.
En tout cas, son cerveau arrière est central, ce qu'on appelle le lobe des émotions, le système limbique. En effet, de façon très surprenante, Valéry qui... est dans la mémoire collective le maître du contrôle de soi, du contrôle cérébral, s'est laissé complètement dévorer par ses passions amoureuses, celles qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, Catherine Pozzi, alors qu'il commence à être célèbre grâce à son poème La Jeune Parc, publié en 1917. Sa célébrité fut alors rapide. Et lors d'un dîner à l'hôtel Plaza Athénée, pas loin d'ici, avec une baronne, parce que Valéry était très mondain, il dînait avec des baronnes, des comtesses, parfois des rois, il était très proche de la famille royale belge, roi et reine. Lors d'un dîner, discrètement à table, alors qu'il n'adressait pas du tout la parole à cette dame préférant briller devant la baronne, une dame est sortie de l'ombre qui s'appelait Catherine Pozzi, elle-même très lettrée, très scientifique, elle suivait un cursus de sciences à Jussieu. Interpellée, ou en tout cas s'est fait remarquer par elle-même son intelligence interdisciplinaire. Et là, Valéry, alors qu'il avait une fille familiale, une épouse très aimante et catholique, qui a même pensé la seule fois au divorce en raison de cette relation amoureuse, qu'il affichait d'ailleurs de façon assez indécente en public, Valéry s'est laissé complètement emporter. Et c'est une relation qui fut finalement malheureuse et qui s'est brutalement terminée. Et là, Valéry a repensé à son mécanisme de contrôle inhibiteur de la nuit de gêne, il a mis en place un programme qu'il a appelé de décarination.
En référence à Catherine, le prénom
voilà.
de cette femme.
Il l'appelle K, les traits le savent dans son livre, parce que c'était le prénom en allemand. Décarination, qui était un processus à nouveau d'inhibition pure, mais qu'il a cherché un peu en dernière minute, et de façon là aussi sans doute beaucoup trop excessive, puisque cette relation s'est brisée, et il y eut un tout dernier épisode à la fin de sa vie, bien pire, avec Jean Voilier, ce qui fait que Valéry brillait à l'extérieur, était devenu grâce à son élection à l'Académie française en 1925, d'une grande notoriété, le poète-penseur de la Troisième République, disait-on, et dans sa vie privée, personnelle, il souffrait, il s'effondrait, il s'épuisait, et je crois, c'est peut-être un peu trop moralisateur, mais qu'il a mal géré son capitaine inhibition, de fait, dans sa vie, mais elle fut aussi créatrice par ses poèmes, comme chacun le sait.
Nous touchons là un aspect important de votre livre parce que vous montrez à quel point Valéry finalement se cherchait lui-même à travers ses femmes. Et c'est un point qui jusqu'à présent n'avait pas tellement été mis en avant. Ce n'est pas le toi qui l'intéresse, c'est le moi à travers le toi.
C'est exactement cela. Et en effet, on a d'abord connu Valéry, puis à travers les biographies, je rends ici hommage à son grand biographe Michel Jarty, qui a écrit un livre de 1200 pages que j'ai rencontré dans mon laboratoire de la Sorbonne grâce à mon confrère Pierre Brunel de l'Académie, grand spécialiste de littérature comparée qui nous a mis en relation. Et cette biographie et l'aide de Michel Jarty, qui a un peu vérifié toutes mes données, mes hypothèses, m'a beaucoup aidé. Hein. C'est vraiment un travail à l'interface des sciences et de la littérature, ce qui manque, je crois, aujourd'hui et qu'il faut développer. Et lorsque j'ai émis cette hypothèse, en effet, elle était nouvelle, parce que soit on avait parlé, et ça ressort du livre de Jarty, d'un Valéry très cérébral, très cognitif, ce que les écoliers ont sans doute retenu, même à travers les poésies, qui étaient quand même, son maître était Mallarmé, la poésie symboliste, un peu formaliste d'un certain point de vue. Et d'autre part, Dominique Bonnat, de l'Académie française, écrit un très beau livre qui s'appelle « Je suis fou de toi », qui était l'une des passions dévorantes de Valéry que l'on a évoqué tout à l'heure, a décrit le Valéry plutôt affectif, méconnu, amoureux, ayant un certain nombre de maîtresses au cours de sa vie. Et je crois profondément, et ça je pense que ce livre le dit pour la première fois, que c'est exactement le même Valéry. Et je cite de mémoire, mais il dit à un moment même dans ses relations vraiment charnelles avec Catherine Pozzi, que ce sont des mains froides qui vont dans un corps toi découvrir ma pensée, mon cerveau, moi. Et il n'y avait pas d'altérité. Catherine Pozzi, c'est pourquoi aussi elle fut totalement déçue de sa relation avec Valéry, parce que Pozzi était une femme écrivain, elle avait une volonté d'écrire. D'ailleurs, notre chancelier Xavier Darcos, dans sa très belle anthologie de la poésie française, accorde 6-7 pages à Valéry, mais une page à Jean Voilier, parce que c'était une femme poétesse. Mais ça n'intéressait pas Valéry. Il prenait ses maîtresses comme un miroir de sa pensée. Et lorsqu'il allait voir ses maîtresses, alors je ne connais pas les détails, à tel moment de la journée, il avait d'ailleurs réservé, loué un appartement pour l'une d'entre elles, Catherine Pozzi, pour classer tous ses cahiers, parce qu'il ne parvenait pas à les classer lui-même. Il n'a jamais été capable de faire la synthèse de ses observations sur son cerveau, sur sa pensée. C'était, dit Jarty, un homme des fragments et pas un homme de la synthèse, malgré son intelligence étincelante. Et son éditeur, Gaston Gallimard, a dit, et je le redis dans ce livre, Valéry est un grand raté et il le sait, parce que son seul luxe, sa seule morale, disait-il, ce sont ses cahiers, l'observation de sa pensée et son cerveau, et d'en faire une synthèse qui devrait être son grand livre, son grande œuvre, qu'il n'est jamais, vraiment jamais, parvenu à faire. Et donc je dis cela pour vous dire que ce soit son introspection du matin rue de Villejuste ou ses relations amoureuses, il cherchait toujours son cerveau, les mécanismes de sa pensée, et c'est son approche est de fait, même si elle fut de souffrance quelquefois pour lui, extrêmement cohérente. Il savait ce qu'il cherchait, et il savait surtout de quoi il était amoureux, c'était son cerveau. Et d'où mon titre qui combine à la fois l'aspect cérébral et affectif, c'est pas juste un livre sur le cerveau de Valéry, ce qui serait pas vraiment intéressant, c'est Valéry amoureux de son cerveau, curieux de tout, mais d'abord de lui-même.
Et vous qui êtes un professionnel du cerveau, comment voyez-vous cette démarche de Paul Valéry et surtout ses découvertes quelle découverte a-t-il pu faire grâce à ce travail au long cours? Quelles intuitions, peut-être par d'autres voies que la voie scientifique, ont-elles pu émerger?
Exactement. Hein, c'est un grand hommage que je rends non seulement à Valéry, mais à la littérature en général, qui a vu des choses par une préscience, en quelque sorte, bien avant les sciences. Et pour moi, la découverte fondamentale de Valéry, je termine le livre là-dessus, c'est d'avoir postulé, puis décrit en détail, que l'intime structure de notre esprit, et donc de notre cerveau, reflète par un plan symétrique la carte de l'univers. Et c'est absolument formidable. Et c'est aussi cela, si on revient au débat entre cône échangeux, réalisme versus constructivisme mathématique que j'évoquais au début, c'est ça que Valéry avait compris. C'est que notre cerveau perçoit, conçoit l'univers, les multivers, dit-on aujourd'hui, puisque les astrophysiciens décrivent plusieurs univers, et même le métaverse, Facebook qui se renomme le métaverse, cet univers virtuel dans lequel la jeunesse va peut-être vivre, eh bien, c'est toujours dans le cerveau humain que ces plans de l'univers se retrouvent par une symétrie qui, elle, est mystérieuse. Alors, chacun l'interprétera comme il veut. Et je termine le livre par une découverte tout à fait solide et que mes collègues astrophysiciens m'ont validé et confirmé. Il y a une analogie que je vous montre, chère interlocutrice, mais que les lecteurs trouveront en image dans le livre, stupéfiante, entre la structuration des galaxies, donc de l'univers, la logique même du réseau et celui des réseaux de neurones. Et ça, Valéry, finalement, l'avait parfaitement anticipé. Et moi, je crois vraiment à l'intelligence assez universelle et générale. Et peut-être que les neuroscientifiques, directement ou incidemment, n'auraient pas pensé à découvrir avec des chiffres, des analyses à l'appui, vraiment une démonstration scientifique, cette analogie entre les structures de l'univers et les structures neuronales du cerveau, c'est-à-dire de l'esprit, peut-être ne l'aurait-il pas faite si la culture générale, et notamment Valéry, ne l'avait pas finalement écrit, pressenti dans ses œuvres. Et ce n'est pas pour rien qu'au cours d'un débat épistémologique fort entre un mathématicien et un neurobiologiste au tournant du XXe et du XXIe siècle, c'est Valéry qui permet finalement de les mettre d'accord. Et je recite tout à la fin du livre une citation de Changeux lui-même dans un livre qui s'appelle « La beauté dans le cerveau » et qui cite Valéry pour effectivement confirmer que ce lien intime entre la structure du cerveau humain et celle de l'univers qui, j'ai écrit CQFD, ce qui veut dire en mathématiques ce qu'il fallait démontrer et que Valéry avait parfaitement pressenti avec toute la volupté de la littérature.
Lui-même, nous l'avons évoqué, mais il serait intéressant d'y revenir, s'intéressait énormément aux sciences de son temps. Vous le dites, il ne lisait pas de romans. En revanche, il lisait les scientifiques. Est-ce que cette culture ouverte a pu avoir une influence dans la maturation de ses idées neuves ?
Assurément, assurément. Il avait vraiment un esprit scientifique. Il visitait les laboratoires de physique, de sciences naturelles ou sciences dures, comme on dirait aujourd'hui, du Collège de France, de la Sorbonne, qui est devenu mon propre laboratoire au quatrième étage de la rue Saint-Jacques, laboratoire de psychologie expérimentale, hein, qui avait été créé de façon contemporaine à la jeunesse de Valéry par Théodule Ribaud, confrère disparu de l'Académie des sciences morales et politiques, qui avait créé le premier laboratoire de psychologie en Sorbonne. Donc il visitait tous ces laboratoires, voulait connaître les technologies. Mais sans doute avait-il dans sa conscience l'intime conviction, ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir lui un accès direct au cerveau humain par sa sublime introspection.
Alors nous avons beaucoup parlé des cahiers et d'autres écrits de Valéry, mais il y a aussi sa poésie. Dans quelle mesure la voix de la poésie permet aussi d'explorer son esprit et de mettre en œuvre des mécaniques assez nouvelles?
Alors, si vous voulez, d'abord, j'écris en analogie avec Gustave Flaubert, qui, chacun sait, se qualifiait d'homme-plume. Je dis que Valéry est un cerveau-plume, et par sa plume passe aussi la poésie. Et le vers très connu, mais que je rappelle pour nos auditeurs, « Je me voyais me voir, sinueuse et dorée, de regard en regard, mais profond de forêt. » Extrait magnifique de la Jeanne d'Arc, qui d'ailleurs a un analogue dans le genre du roman avec Monsieur Tess, qui dit aussi « Je me voyais me voir », etc. C'est ce dédoublement, cette prise de conscience que décrit Valéry. Eh bien, il l'a trouvé soit, on l'a dit par Monsieur Tess, qui incarnait ce personnage, on peut appeler le capitaine Inhibition, qui contrôle sa pensée, mais aussi par sa poésie, ce qu'il a appelé la poésie pure. Je la renomme psycho-poésie pure. Et vous savez que Valéry eut tout à la fin de sa carrière une chaire au Collège de France qui s'appelait chaire de poétique, et il ne parlait que d'une chose, de lui, c'est-à-dire du poète, de la créativité à travers la poésie, mais il décrivait ses propres mécanismes. Alors le sujet était suffisamment riche, évidemment, comme il avait décrit beaucoup plus jeune le génie de Léonard de Vinci. Donc il faut retourner à Valéry, et je pense que ses œuvres, on va dire les essais ou les cahiers ou le petit roman de Monsieur Test ou ce magnifique petit livre qui s'appelle Le bilan de l'intelligence, écrit, si ma mémoire est bonne, en 1935 et qui est le texte d'une conférence. Valéry était partout, sollicité partout, même en Europe, c'était le prince des lettres françaises. Eh bien, dans le bilan de l'intelligence, qui se termine d'ailleurs par l'incitation à exercer le sport intellectuel, qu'il exerçait lui-même chaque matin, que M. Test exerçait, que l'on a testé dans le cerveau, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années, grâce aux nouvelles technologies d'imagerie cérébrale, eh bien, dans ce petit bilan de l'intelligence ou dans ses poésies, Valéry est toujours dans cette quête et dans cette expression du cerveau. Alors, ce serait immodeste de vouloir tout citer, mais je pense qu'avec ce regard, et j'espère mon bref livre, soit la jeune génération qui n'a peut-être pas lu Valéry aura envie d'aller y voir, y compris les jeunes scientifiques. Vous savez que le problème de la pensée contemporaine, c'est qu'elle est trop précisément fragmentée, divisée. Les scientifiques deviennent deviennent de plus en plus spécialisés dans leur domaine. Les littéraires ont de leur côté une vision plus large, mais la science est devenue tellement technologique que les littéraires ne peuvent plus se permettre d'être à la fois littéraires et scientifique. Donc, on est plutôt dans la division des processus, la division de la pensée. Et je pense au contraire que notre cerveau, le cerveau humain, peut et doit au contraire faire du lien. Edgar Morin, à l'aube du XXIe siècle, avait écrit un bel essai qui était un manifeste, relier les connaissances. Et je pense en effet qu'on peut relire Valéry ou lire pour la première fois pour les jeunes générations Valéry avec cet apport intellectuel et scientifique d'aujourd'hui, des neurosciences qui précisément complètent ce puzzle que Valéry avait commencé dans ses œuvres, dans ses cahiers, dans sa poésie même, autour du cerveau et du sport intellectuel.
Pour finir, est-ce qu'un scientifique d'aujourd'hui peut trouver chez Valéry des pistes à creuser? Vous avez parlé d'une piste qui a été confirmée. Est-ce qu'il en existe d'autres? C'est vraiment la conclusion de votre livre pour les psychologues et les neuropsychologues d'aujourd'hui.
En effet, j'avais terminé le livre un peu avant et puis je me suis dit qu'il serait quand même dommage, alors que, étant scientifique et en écrivant le livre moi-même, j'ai généré des hypothèses nouvelles. J'ai essayé de préciser en quoi cette intuition de Valéry sur la symétrie entre la structure du cerveau, de l'esprit, et le plan de l'univers était vraiment essentiel chez l'humain, de faire une synthèse de ce que les littéraires ne connaissent peut-être pas, de tous les phénomènes qu'on appelle de topie dans le cerveau, T-O-P-I-E. Par exemple, il y a la rétinotopie. Il faut savoir que d'abord, sur le fond de votre œil, dans la rétine, et puis dans le cerveau, dans le cortex visuel, vous avez une similitude très grande entre les patterns perceptif. Si vous voyez par exemple un tableau, je vais dire de Degas, puisque Valéry aimait, on en parlera une autre fois, mais aimait beaucoup Degas, il observait dessiner ses danseuses qui dansaient. On peut voir pour la peinture par exemple, ou pour toute observation visuelle dans le réel, quasiment le reflet des patterns perceptifs dans le cortex visuel. C'est ce qu'on appelle la rétinotopie. On a aussi la sonotopie, c'est-à-dire si vous entendez de la musique, Valéry adorait Debussy, il adorait aussi Wagner, et je fais une analogie, vous l'avez vu, entre le début d'un opéra de Wagner et le Capitaine Inhibition, La Nuit de Gênes. Il aimait la musique et on sait aujourd'hui, Changeux a très bien décrit ça dans La Beauté dans le cerveau, qu'il y a aussi un phénomène de sonotopie, c'est-à-dire que les motifs sonores dans le cortex auditif, cette fois, se retrouve, mais quasiment point par point. Ce qui veut dire, et c'est très important pour la beauté et le cerveau, il faut éveiller le beau à l'école. Ce qui veut dire que le perçu, qu'il soit auditif ou visuel, s'imprime en quelque sorte dans le cerveau humain et celui des enfants, par exemple, en particulier. Ce que Montessori avait très bien pressenti également. Donc sonotopie, rétinotopie, plus récemment encore, a été démontrée la somatotopie, c'est-à-dire que dans votre cortex moteur ou prémoteur, vous avez une représentation proportionnée, mais quasi identique à tous les segments du corps humain, et y compris au mouvement. Ce qui veut dire aussi que si vous observez quelqu'un faire un geste, comme je le fais vers vous, ou si vous-même vous le faisiez, c'est le même réseau de neurones qui s'active, ce qu'on appelle la résonance motrice dans les réseaux de neurones. Et donc, on peut imaginer que, et c'est pourquoi Valéry aimait beaucoup les ballets qu'il allait voir à l'opéra, cette symétrie profonde se voyait aussi par les actions observées ou ressenties ou même imaginées. Encore plus récemment, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants, la numérotopie a été prouvée dans le cerveau, c'est-à-dire que, et c'est beaucoup plus difficile, que les nombres eux-mêmes ont un reflet proportionnel précisément à ce qu'on appelle la numérosité dans le cortex pariétal. Mais il ne manque qu'une chose à démontrer, et pour lequel dans mon laboratoire on a déjà des premières preuves, c'est la logicotopie. Et là on atteindra le but valérien, c'est-à-dire que la logique elle-même, donc dans mon labo, on a montré ce qui se passe quand le cerveau, on l'évoquait tout à l'heure, n'est pas logique, un biais de raisonnement, une heuristique, et puis devient logique, il active son cortex préfrontal. Mais très précisément, et j'invite les lecteurs à lire cette dernière partie, on a montré que selon la force des biais, des illusions qu'il faut inhiber pour devenir logique, on a une quantification assez précise de ce qu'est le processus d'abstraction dans le cerveau. Donc on peut aussi imaginer que pour la structure non pas superficielle, perceptive des choses, mais la structure profonde, logique, il y a aussi une topie dans le cerveau, notamment dans le cortex préfrontal, ce que j'appelle la logicotopie. Dans les volumes, si vous voulez, logico ou mathématico-géométriques du cortex préfrontal. Et cela, les technologies d'aujourd'hui permettraient de tester cette hypothèse. Et franchement, sans Valéry, je n'y aurais pas pensé.
Eh bien, un grand merci Olivier Houdet. En vous écoutant, nous comprenons pourquoi Paul Valéry a passé autant de temps à scruter, à étudier, à observer, à écouter son cerveau. Je rappelle donc le titre de votre livre, Paul Valéry, amoureux de son cerveau, curieux de tout, mais d'abord de lui-même. C'est une de ses maîtresses qui le disait. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci et à bientôt.